nzamba
nzambira samirana
Le journal avec Francine Kanyani.
Vous écoutez Radio Inzamba, soyez tous les bienvenus. Dans l'actualité de ce samedi 21 novembre 2020, cri d'alarme pour la protection d'un couple détenu à la prison centrale de Nimba, au sud de la capitale économique. Herménégide, habitant de la zone Mouyila, et son épouse ont été extraits de leur cellule et torturés par des agents du renseignement, selon des sources de la prison de Nimba. Trois personnes sont mortes hier dans les communes Gachero et Wuhinza de la province Muyinga. C'est dans le nord du pays de Saint-Marthe, dont l'effondrement d'une maison, une autre a été retrouvée pendue. Le phénomène des enfants en situation de rue, une épine dans le pied des autorités burundaises, vous l'entendrez dans le mini-magazine au cœur de la société.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Théodomir Manilambona assure la mise en onde de ce journal à la réalisation de Claude Ninadwe. Les habitants de la colline Gweza, zone Mouya, dans la province de Bujumbura, sont préoccupés par la sécurité de Vigilimana Herménégide, alias Kigoma, actuellement emprisonné à Mimba avec sa femme depuis 2017. Cet habitant de la zone Mouya est accusé par le chef de cette zone d'avoir caché des armes à feu dans sa parcelle, ce que nient des voisins. Ils s'inquiètent donc pour la santé de ce détenu extrait hier de la prison et ramené dans sa cellule après avoir été torturé par des agents de renseignement.
Batabariza umuntu yitwa Hermes avuka ku mutumba gweza asanzwe ari umufungwa asanzwe apfundwe mu mbimba cyo kimwe mu pasani wiwe.
Nous demandons de l'aide pour la protection d'une personne répondant au nom de Vigilimana Herménégide, natif de la colline Gweza. Il est actuellement dans la prison de Mimba avec sa femme. Hier, on l'a accusé d'avoir caché des armes à feu. Ils ont été trouvés à la limite de sa parcelle et celle du chef de zone Gédéon, surnommé Mitawavuma. Ils ont inventé une histoire comme quoi il était en train de créer un groupe de rebelles. Les Imbonerakure, en collaboration avec la police, ont détruit sa maison, construite par un bienfaiteur pour le compte de ses enfants, laissés seuls sur leur propre sort. Par après, ils se sont dirigés vers la documentation où ils ont raconté leurs mensonges. Les services de renseignement ont pris Herménégide, alias Kigoma, de la prison centrale pour l'acheminer vers la documentation où il a été torturé à mort en compagnie de sa femme. C'était dans la soirée d'hier. Il a été ramené de la prison de Mimba dans un état critique. Là où ils disent qu'ils ont trouvé des armes à feu, c'est entre la parcelle de Hermès et celle du chef de zone. Ce qui prouve que c'est un plan pour le nuire. Et le chef de zone a la mauvaise habitude de marmener ceux qui ne sont pas membres de son parti politique.
Témoignage d'un habitant de la colline Gweza en zone Mouyila dans la province de Bujumbura. La traduction était assurée par Bilancil Ninazwe. Contacté par Radio Inzamba, le chef de la zone Mouyila, cité dans ce témoignage, n'a pas souhaité faire de commentaires. Il a plutôt répondu par des insultes. Les informations recueillies dans la prison centrale de Mimba indiquent que la femme de Vigilimana Herménégide, surnommée Kigoma, a été torturée à son tour la nuit dernière. Elle voit à peine, suite à la torture qu'elle a subie, son mari, lui, a été transféré dans la chambre de correction de la prison centrale de Mimba. 397e jour de détention pour les quatre journalistes du groupe de presse Siwachu, arrêtés le 22 octobre 2019 en province Bouanza. Christine, Agnès et Gide et Terence partaient en reportage à Musigati de la même province sur les combats qui opposaient des rebelles aux forces de sécurité. Ils sont poursuivis pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sécurité de l'État. Nous rendons dans le nord du pays, plus précisément en province Muyinga, un habitant de la colline Lushara, zone commune Gachero, a été retrouvé mort hier vendredi, suspendu à une corde. Selon des informations recueillies sur place par Radio Inzamba, l'homme âgé de 47 ans se serait suicidé, mais d'autres sources affirment qu'il a été tué avant d'être pendu. Deux autres personnes, Saint-Marthe, dans la commune Ruinusa, lors d'une forte pluie. Il s'agit d'une femme et de son enfant mort dans l'écroulement d'une maison, selon une source administrative.
Mesures de prévention de la COVID-19 dans un lieu public. Un lieu public est tout endroit où se rassemblent plusieurs personnes. Les écoles, les églises, les marchés, les salles de cérémonie, les internats, les camps militaires et j'en passe. Comment protéger les gens dans ces lieux publics? Encourager le lavage des mains régulier ainsi que le comportement positif lié à l'hygiène. Veiller à ce que les postes de lavage des mains soient accessibles et adaptés à tous, particulièrement aux enfants et aux personnes handicapées. Placer des flacons de solution hydroalcoolique dans ces lieux publics. Nettoyer et désinfecter régulièrement les lieux en accordant une attention particulière aux surfaces avec lesquelles de nombreuses personnes sont en contact, par exemple les rampes d'escalier, les tables, les chaises, les poignées de portes et de fenêtres et j'en passe. Installer partout des panneaux encourageant de bonnes pratiques d'hygiène.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agateka Kawe,
en partenariat avec Internews, financé par l'Union européenne.
Capture à la pointe, au hasard, le grand nombre d'enfants issus de la polygamie entraîne le manque de leur encadrement, ce qui explique en partie l'insécurité dans cette province, selon certains observateurs. C'est ce qui est ressorti d'une réunion tenue hier en commune Musigati de cette province de Bouanza entre des administratifs et les députés élus dans cette circonscription. Et ces élus du peuple disent qu'ils vont s'atteler à la tâche de résoudre les problèmes que cause la polygamie en province de Bouanza. Audace Nimbona.
Au cours de cette réunion tenue en commune Musigati en rapport avec la polygamie qui s'observe dans cette commune, les administratifs et les élus du peuple ont contourné la question. Les hommes importent les filles de la province voisine d'Okayanza en leur rassurant qu'ils sont encore célibataires. Mais quand elles arrivent chez les hommes, elles constatent qu'ils ont d'autres femmes. Comme pour la plupart sont enceintes, elles préfèrent y rester et partager un même mari, ce qui cause des difficultés souvent dans les ménages. Selon le député Com, ces hommes sont la cause de la pauvreté qui s'observe dans leur famille. C'est moi seul qui ai 10 enfants, mais il ne dit pas pourquoi il en a eu. J'ai entendu un homme qui avait 14 femmes. Vous sentez ce que c'est avoir 14 femmes? Pour les reconnaître, c'est l'enfant qui sautait sur son papa en le saluant. Et de son côté, pour connaître l'enfant, lui demandait sa mère. À part que la polygamie crée l'insécurité, les enfants ne suivent pas correctement à l'école. Comptez le nombre d'écoles construites chaque année et celles construites une année après sont encore fonctionnelles et ne sont pas suffisantes. Ces députés ont bien précisé qu'ils vont se préoccuper des problèmes causés par la polygamie dans l'objectif de l'éradiquer.
Audace Nimbona, retour en province Muyinga. Des consommateurs résidant dans la ville de Muyinga et ses environs se disent préoccupés par la flambée des prix de certaines denrées alimentaires. C'est notamment la farine panifiable et la viande. Parfait, Mundasigan.
Selon des consommateurs contactés par la radio Inzamba, le prix d'un sac de farine a sans cesse monté, passant de 41 500 francs burundais au mois de juin dernier à 52 000 francs burundais aujourd'hui. Les mêmes informations disent que les consommateurs se lamentent car les boulangers ont sensiblement réduit la taille du pain et des beignets. Aujourd'hui, le pain qui coûte 200 francs burundais ne mérite même pas 100 francs burundais. L'autre denrée alimentaire qui coûte très cher, c'est la viande. Il y a 6 mois, un kilo de viande coûtait 6500 francs burundais sur le marché. Aujourd'hui, la même quantité s'acquiert à 9000 francs burundais. Il en est de même pour le poisson pêché localement dans le lac Igweru. 5 pièces de poisson qui coûtaient 5000 francs burundais il y a 3 mois s'achètent présentement à 8000 francs burundais. Les consommateurs demandent à l'autorité provinciale et celle du ministère du Commerce de travailler en synergie pour réguler ces prix. La radio Inzamba n'a pas encore eu la réaction du ministère du Commerce.
Parfait. Mudasigana, place mini-magazine au cœur de la société. Le monde entier célébrait hier, 20 novembre 2020, la journée dédiée aux droits de l'enfant. Dans ce mini-magazine, nous reviendrons sur le phénomène persistant des enfants en situation de rue au Burundi. Bertrand Gendakuliyo.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjouya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
La problématique des enfants en situation de rue est une réalité dans différents quartiers de la capitale Bujumbura, comme dans les autres villes du pays. Malgré ce phénomène persistant depuis des dizaines d'années, le gouvernement et ses partenaires n'ont pas de solution adéquate jusqu'à présent. Est-il possible d'éradiquer ce phénomène d'enfants en situation de rue dans le pays? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine de ce 21 novembre 2020 à la présentation Bertrand Yandakuliyo. Bienvenue. Ils sont encore nombreux à arpenter le macadam du centre-ville et des quartiers limitrophes à la recherche de l'argent ou de quoi manger. Le constat avec Thierry Wigindavi, mon confrère de la télévision Renaissance.
Depuis que le gouvernement a pris la décision de ne plus permettre qu'il y ait des enfants qui vivent dans la rue, leurs attroupements sont de plus en plus rares. Ils se cachent, mais un à un surgit pour mendier quoi manger. Au centre-ville de Bujumbura, on peut voir ces enfants à la place de l'ancien marché central, en face de l'immeuble Plaza. Dans la commune Mukaza, au quartier asiatique, chaque matin, ces enfants font la porte à porte et inondent les rues et les magasins pour commander à manger ou mendier l'argent à tout passant. Ces enfants rôdent aussi autour des feux de signalisation routière quand les véhicules font la queue pour attendre le feu vert. Ces enfants foncent dans la rue pour demander la charité à ceux qui se trouvent dans ces véhicules. Certains de ces enfants que nous avons pu approcher nous ont confié qu'ils sont souvent victimes de brutalité policière. Ils sont frappés et dépouillés de tout ce qu'ils ont sur eux, surtout l'argent, chaque fois qu'ils sont attrapés par la police. Aussi, ils affirment qu'ils sont régulièrement victimes d'une stigmatisation de la société. Le regard que les gens portent sur eux, en tant qu'enfants de la rue, leur donne l'impression de ne pas être considérés comme des êtres humains, mais bien comme des déchets urbains. Les enfants de la rue, âgés entre 2 ans et 10 ans, sont des fois encadrés par les aînés qui se trouvent dans les mêmes conditions que ces enfants indiquent la pauvreté qui guette les familles est l'une des causes de cette situation déplorable.
Depuis le 14 octobre 2011, une stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue a été élaborée et validée par le gouvernement. Même si les statistiques actualisées des enfants en situation de rue ne sont pas disponibles, près de 4000 enfants en situation de rue ont été insérés dans leurs familles, selon les derniers chiffres fournis par le ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions. Est-ce que le gouvernement et les organisations œuvrant dans le secteur des enfants ont-ils échoué à éradiquer totalement le phénomène des enfants en situation de rue? La question a été posée par notre confrère Émilie Nibasumba de la RPA à l'analyste David Ninganza qui suit de près la situation des enfants au Burundi.
Non, on n'a pas échoué. On ne peut pas parler que la société civile, le gouvernement, les agences des Nations Unies ont échoué. Non, on continue, on travaille. Bien sûr, quand même, il y a des avancées. Aujourd'hui, malgré les enfants en situation de rue, on ne voit pas ceux qui meurent sur la route, on ne voit pas ceux qui sont victimes de différentes violences. Même si être dans la rue, c'est déjà une violence, être dans la rue, c'est déjà un manquement grave. Mais n'oubliez pas qu'il y a une crise qui a secoué le pays depuis 1993. Les enfants n'ont pas été épargnés. Il y a des enfants qui ont été victimes des parents décédés, donc les orphelins de père et mère. N'oubliez pas aussi qu'il y a des enfants qui étaient séparés par les parents, des enfants victimes de violences de toutes sortes à cause de la crise sociopolitique qui a secoué le pays depuis 1993. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer, mais aujourd'hui, quand même, la situation est améliorée.
Cet expert propose la redynamisation du conseil de famille pour protéger les enfants qui finissent dans la rue. De son côté, le politique Francis Loero, candidat malheureux indépendant au présidentiel de 2020, estime qu'il faut tenir compte des facteurs psychologiques causés par les guerres, des facteurs économiques et sociale.
La solution donc doit provenir de tous ces cas. C'est d'abord cerner la question économique de ce pays, cerner le social de nos familles. Est-ce que nos familles sont vraiment solides? Il faut les rendre solides. En essayant de rendre l'économie meilleure, on peut rendre nos familles solides. Et deuxièmement, l'éducation va trouver son ampleur. Les gens vont comprendre la raison d'une bonne éducation, la raison de pourquoi on va à l'école, pas seulement pour ressembler aux autres, mais pour donner le meilleur de soi-même. Et c'est aussi ça qui va guérir complètement le problème psychologique qui est venu de la peur de tout, parce qu'on mélange tout dans notre pays. Les enfants ont peur, les enfants ne savent plus réellement qui ils sont et ce qu'ils sont devenus. Il y a eu tellement de choses. Alors moi je me dis, la solution, c'est un tout qui va mener tout ça, l'économie de ce pays, dans tous ses méandres, dans tous ses embrassements, doit être la solution, pas seulement au problème des enfants de la rue, mais au problème d'aujourd'hui, de ceux qui étaient des enfants de la rue il y a 20 ans, mais qui sont aujourd'hui des papas et des mamans de la rue. C'est un problème qu'il faut cerner, pas pour envoyer des policiers, pour arrêter des enfants, les amener dans des familles, par force, et c'est un problème réellement qu'il faut cerner véritablement avec des mécanismes économiques qu'il faut passer par des programmes réellement corrects.
Vous venez d'entendre que pour retirer les enfants de la rue dans la voie publique, il faut une préparation minutieuse des familles afin d'améliorer la situation qu'ils ont fui. C'est ici donc que prend fin l'Omini Magazine au cœur de la société de ce samedi. Bertrand Nakurio, j'étais à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre magazine. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Terminons par la revue de presse présentée par Emmanuel Deschimi.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bonjour à tous, bienvenue à cette revue de la presse. Burundi ONU, divorce consommé, écrit le journal burundidaily.net. Le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Burundi avait été créé en 2016 au plus fort de la crise, née de la décision de l'ancien président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat jugé illégal, écrit burundidaily.net. Sa mission fixée par l'ONU était notamment de mener et coordonner les efforts politiques des Nations Unies pour promouvoir la paix et le développement durable au Burundi. Dans son dernier rapport sur le Burundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait décidé de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 la présence du bureau de son envoyé spécial au Burundi. Mais le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement a annoncé au secrétaire général des Nations Unies la fermeture et la liquidation au 31 décembre de cette année du bureau local de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Burundi. Les Nations Unies font les yeux doux à Gitega, souligne le journal Iwacu. Dans son rapport adressé au Conseil de sécurité, Antonio Guterres utilise un langage plus que conciliant. Pour l'analyste chercheur Thierry Virculon, l'ONU est désarmée face à la division du Conseil de sécurité, à voir les différentes résolutions qui n'ont pas abouti à cause des vétos des Russes et des Chinois. Aussi, selon Virculon, il suffit de comparer les conclusions du rapport du Sahel des Nations Unies et celui de la commission Doudou Diène, une branche des Nations Unies. Il y a une grande différence. Les Nations Unies parlent d'évolution au moment où la commission d'enquête des Nations Unies parle du contraire. Aéroport Melchior Ndadaye, 16 cas testés positifs à la COVID-19 après sa réouverture, écrit le journal Iwacu. Le ministre de la Santé publique, Tadé Ndikumana, donne l'alerte sur 450 passagers en provenance de l'étranger testés depuis la réouverture des voies aériennes lundi 9 novembre. 16 cas ont été testés positifs. C'est anormal, ces passagers arrivent à l'aéroport munis de leur certificat de test négatif à la COVID-19. Il y a des vols qui amènent beaucoup de cas positifs, s'inquiète le ministre Tadé Ndikumana. Il donne un exemple. Pour le seul vol du 14 novembre, sur 39 passagers, on a trouvé 10 cas positifs. Et voilà, c'est la fin de cette revue de la presse. À la prochaine. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Excellente soirée.